Bonsoir à toutes et à tous. C'est peut-être l'épilogue de la plus grave crise politique de l'histoire d'Israël. La troisième sera-t-elle la bonne pour Benjamin Netanyahou? Le Premier ministre sortant donné ce soir en tête des élections législatives. Nous sommes en direct avec notre envoyé spécial Omar Waman dès le début de ce journal. Pas de sortie de crise. En revanche, en Libye, celui qui était chargé d'en trouver une au nom des Nations Unies, Hassam Salamé, démissionne. Il parle de raisons de santé. Dans ce journal également, le nouveau coronavirus qui continue sa propagation en France, 61 nouveaux cas et des écoles qui ferment. Le ministère de l'Éducation nationale met en place une plateforme en ligne pour les élèves obligés de rester chez eux. Les enseignants sont plus que dubitatifs. Nous serons en ligne avec une responsable du syndicat SNES-FSU, invitée de ce journal. Et puis Force Ouvrière quitte la conférence de financement de la réforme des retraites. Son secrétaire général Yves Verrier dénonce la méthode du gouvernement. Des policiers en combinaison blanche qui hurlent par mégaphone à des citoyens de rester à bonne distance, de ne pas trop s'approcher, d'entrer directement sous une tente plantée au beau milieu d'une zone industrielle. Des élections législatives aux allures de science-fiction en Israël aujourd'hui. Ce sont les troisièmes en moins d'un an, mais les premières au temps du nouveau coronavirus. Et le pays qui a mis en place des bureaux de vote spéciaux pour les électeurs susceptibles d'avoir contracté le Covid-19. Ces bureaux de vote ont fermé comme les autres il y a maintenant une heure. C'était d'ailleurs la grande inconnue de ce scrutin. Quel effet l'épidémie allait-elle avoir sur la participation? Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a appelé toute la journée la population à voter malgré les craintes. Bonsoir Omar Waman.
Bonsoir Emmanuel.
Vous êtes actuellement au QG de Benny Gantz, l'adversaire de Benjamin Netanyahou. Quelle ambiance autour de vous ce soir?
Écoutez, ici, dans le quartier général de campagne bleu-blanc, l'ambiance n'est pas bonne. On se souvient que lors du dernier scrutin, en septembre dernier, les partisans de Benny Gantz, qui mènent cette formation de centre-gauche, étaient particulièrement optimistes. Ils étaient persuadés que leur candidat l'avait emporté avant une véritable douche froide quand Benny Gantz s'est retrouvé dans l'incapacité de former une coalition capable de gouverner. Mais ce soir, ici, l'ambiance est déjà triste alors que la soirée ne fait que commencer, ce qui est de très mauvais augure pour Bleu Blanc.
Et puisque vous avez peut-être les premiers résultats des sondages sortis des urnes, Omar.
Écoutez, un message sur Twitter en dit long sur l'état d'esprit ce soir de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien sortant. Il a tweeté peu après la fermeture des bureaux de vote un message en un mot, merci, accompagné d'un petit cœur, car il réalise ce soir un bien meilleur score que lors du dernier scrutin, avec 5 sièges de plus pour le Likoud. Le bloc de droite et d'extrême droite dont Netanyahou a pris la tête est crédité ce soir de 60 sièges, la majorité étant de 61 députés. Benjamin Netanyahou est donc très bien placé pour se succéder à lui-même, alors que Benny Gantz et sa formation de centre-gauche obtiendraient 54 députés seulement, insuffisant pour espérer gouverner. Des résultats encore provisoires qui devraient s'affiner dans la nuit et des résultats définitifs attendus demain ou mercredi au plus tard.
Waman en direct du QG de Benny Gantz pour France Culture. Aux États-Unis, la voix se dégage clairement au centre pour l'ancien vice-président Joe Biden, candidat à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle de novembre. Au lendemain de sa large victoire à la primaire de Caroline du Sud, deux candidats de sa tendance, Pete Buttigieg et Amy Klobuchar, abandonnent. Ils estiment ne plus être en capacité de remporter la course, alors que 14 États se prononcent demain, dont la Californie, le Texas ou encore le Colorado. Un Super Tuesday dont Joe Biden espère émerger comme le seul capable de battre Bernie Sanders, pour le moment favori des sondages. Il se voulait l'artisan du rapprochement entre les deux autorités rivales libyennes, celle du gouvernement d'union nationale basé à Tripoli, reconnue par l'ONU, et celle incarnée par le maréchal Haftar dans l'est du pays. L'émissaire des Nations Unies pour la Libye, Hassan Salamé, démissionne ce soir. Il avance, Nabila Hamel, des raisons de santé.
Oui, j'ai cherché pendant 2 ans et demi à rassembler les Libyens, à éviter une intervention étrangère et à préserver l'unité du pays, mais ma santé ne me permet plus de supporter autant de stress. L'homme qui vient de jeter l'éponge, explique par ses mots toute la difficulté de la crise libyenne. Elle s'est aggravée depuis l'offensive lancée en avril dernier par le maréchal Haftar pour le contrôle de Tripoli, puis l'affrontement interlibyen est devenu plus complexe encore en raison des multiples ingérences étrangères. Les deux camps qui s'affrontent bénéficient désormais d'aide en armes et en militaires de la part de leurs soutiens respectifs, ce qui les renforce et du coup éloigne toute solution politique. En tout cas, la trêve obtenue le 12 janvier entre les forces proches du gouvernement Sarraj et les partisans du maréchal Haftar est régulièrement violée à Tripoli. Des tirs de roquettes y étaient entendus vendredi dernier. Ce jour-là, Hassan Salamé s'en était pris, je cite, aux cyniques qui tentent de saper les discussions entre les belligérants libyens. Il réclamait également un plus grand soutien international dans ce dossier. L'ONU avait alors confirmé le démarrage d'un dialogue politique interlibyen, mais les deux camps avaient suspendu leur participation.
Nabila Hamel. La trêve partielle ne tient plus en Afghanistan. Après 9 jours de réduction des violences, les talibans ont annoncé en début d'après-midi mettre un terme à cette trêve. Ils reprennent leur offensive contre les forces de sécurité afghanes. Au même moment, un attentat à la moto piégée non revendiqué a tué au moins 3 civils lors d'un match de football. Le monde compte désormais plus de 3000 morts et plus de 90 000 personnes contaminées par le nouveau coronavirus. 2 seuils symboliques franchis aujourd'hui et c'est désormais hors de Chine que la propagation s'accélère. En France notamment, le ministère de la Santé annonce ce soir la mort d'une 3e personne ayant contracté le virus, une femme de 89 ans, originaire de l'Oise. Le nombre de cas, lui, bondit de près de moitié, 191 au total, 61 de plus qu'hier. L'une des principales conséquences de cette épidémie, ce sont ces 2000 élèves pour le moment qui n'ont pas repris l'école, soit parce qu'ils ont récemment séjourné dans une zone touchée par le coronavirus, soit parce qu'ils vivent dans un des principaux foyers infectieux. L'Oise, la commune de Labalme de Sillingy en Haute-Savoie, et désormais plusieurs communes du Morbihan où les écoles sont purement et simplement fermées. Ces élèves vont pouvoir bénéficier d'un dispositif d'enseignement à distance. Il a été mis en place aujourd'hui par le ministère et par le CNED et il prévoit notamment à Kim Kasmi des classes virtuelles.
Concrètement, les élèves disposeront sur la plateforme du CNED de toutes les matières de la maternelle grande section au lycée, avec au préalable des tests en fonction de leur niveau, des exercices qu'ils pourront faire sur leur ordinateur, téléphone portable ou bien sur des tablettes. Quant aux enseignants, ils pourront également donner cours directement via un système de visioconférence, comme on peut l'entendre dans cette vidéo destinée à des élèves de CE2. Édouard Geffray, le directeur général de l'enseignement scolaire.
De manière générale, pour les plus petits, il faut généralement qu'il y ait un adulte qui soit avec eux, effectivement, pour l'accompagner. Pour les plus grands, en revanche, on est vraiment sur du travail en autonomie, avec ensuite l'interaction avec le professeur, y compris via la classe virtuelle, qui permet de s'assurer que le jeune a à la fois bien travaillé, enfin, au sens qu'il a bien suivi le parcours, et puis qu'il peut continuer à progresser.
Mais ce dispositif, qui a déjà servi à 2000 élèves français scolarisés en Chine, a ses limites, car en cas de propagation du virus au niveau 3, eh bien ce dispositif ne pourra marcher que pendant 4 semaines, comme nous l'explique Michel Vercheron-Bio, le directeur du CNED.
Au CNED, nous avons des contenus, hein, puisque nous scolarisons des élèves de la grande section jusqu'à la terminale, donc les contenus existent. Après, je crois que le lien avec les enseignants est fondamental et cette continuité ne pourra pas s'assurer que par des documents remis sans l'aide du professeur. Et c'est ce dispositif à repenser au bout de 4 semaines.
Quant aux enseignants, ils restent dubitatifs, car pour l'instant, ils n'ont pas tous été formés, et ce, malgré les tutoriels qui seront mis à leur disposition.
Et pour en parler, nous sommes en ligne avec la secrétaire générale adjointe du SNES-FSU, Sophie Venetité. Bonsoir.
Bonsoir.
Est-ce que cette plateforme vous semble en capacité, en mesure d'assurer une continuité pédagogique, comme l'entend le ministère ?
Alors, assurer la continuité pédagogique, c'est une très bonne chose pour que les élèves ne perdent pas le lien avec l'école. En revanche, on a encore beaucoup de questions sur la réalité de ce dispositif, qui est présenté comme étant une classe virtuelle, la possibilité de faire une classe à la maison. Maintenant, dans les faits, il y a des questions techniques qui se posent, notamment en termes de connexion des élèves, mais aussi des questions pédagogiques. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va être en mesure de suivre, par exemple, le travail d'une classe entière, de 35 élèves, voire de 2 ou 3 classes, quand on a plusieurs classes en charge.
Cette plateforme est censée répondre aux besoins des élèves de l'école maternelle jusqu'au lycée. Est-ce qu'elle est vraiment adaptée à chaque âge ? On imagine qu'un enfant de 3, 4, 5 ans n'aura pas les mêmes capacités à appréhender un outil numérique qu'un lycéen, par exemple.
Alors, le ministère nous assure que, selon la formule consacrée, tout est prêt pour accueillir la connexion de 7 millions de personnes et que des séquences pédagogiques sont prêtes en fonction des niveaux. Nous, pour l'instant, nous n'avons rien vu. C'est-à-dire que quand le ministre a annoncé ce dispositif, on a été extrêmement surpris puisqu'on n'en avait pas vraiment entendu parler. qu'on n'a jamais pu le voir. Hein. Il y a eu une petite démonstration vendredi pour quelques représentants des personnels au ministère, mais nous, dans les établissements, on ne sait absolument pas à quoi ça ressemble, à quoi peut ressembler, par exemple, un cours de terminale, un cours de sixième, un cours dans l'école primaire. Tout ça, on ne le sait pas. Donc, on navigue vraiment à vue. Si demain, notre lycée ou notre collège est fermé, on ne sait pas concrètement à quoi ressemble l'interface. On n'a même pas été formé à l'utilisation de cette interface avec quelque chose, par exemple, tout bête. Comment est-ce que je gère la connexion de mes 35 élèves en même temps? Comment est-ce que je vérifie qu'ils sont bien là? Comment est-ce que je vérifie qu'ils sont bien en train de faire le travail que je leur ai donné? C'est des questions qui paraissent très simples, mais ce sont des questions essentielles pour nous en tant qu'enseignants.
Les cours sont pour l'instant assurés pour 4 semaines via cette plateforme. Si jamais l'épidémie ou le confinement de certains élèves devait durer plus longtemps, comment est-ce que ça se passerait? Et à quoi correspondent ces 4 semaines?
Alors, effectivement, on sait qu'il y a aujourd'hui 4 semaines de cours qui sont assurées via cette plateforme. On n'a aucune réponse sur un possible allongement de la période pendant laquelle on serait amené à faire cours via ce dispositif. Ça fait là aussi partie des questions pédagogiques sur lesquelles nous n'avons pas de réponse. Comment la suite a été envisagée, pour l'instant, on ne le sait pas.
Sur le site du ministère où cette plateforme est présentée, il est précisé qu'il convient de ne pas exposer les enfants les plus jeunes une durée prolongée aux écrans. Ça semble assez contradictoire avec le mode de fonctionnement de la plateforme en elle-même.
Oui, ça fait partie un peu de toute la contradiction dans laquelle le ministère est quand il parle d'écran et de promotion du tout numérique. On l'a souvent vu promouvoir le numérique à un grand renfort de promotions diverses et variées. Maintenant, on sait les soucis que ça peut poser auprès des élèves les plus jeunes, mais aussi les moins jeunes. Hein. On sait qu'à l'adolescence, ça peut poser soucis. Après, là, c'est vrai que l'outil permet d'assurer une continuité pédagogique, mais c'est pas complètement... ça paraît assez intéressant d'utiliser cet outil. Maintenant, encore une fois, de la même manière qu'on ne sait pas trop comment l'utiliser, on ne sait pas trop quels sont les garde-fous qui sont apportés pour faire en sorte que ça soit un outil pédagogique, mais que ça reste dans les limites de ce que ça doit être. La solution qui paraît adaptée à l'instant T, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des élèves, enfin des établissements entiers qui sont fermés, a priori pour une durée assez limitée. Et c'est vrai que par rapport aux enjeux qu'il y a à continuer à faire cours à très court terme, ça paraît être une solution, somme toute, assez sage. Aujourd'hui, on sait que les collègues qui ont essayé ça, ils peuvent nous dire que ça permet de maintenir le lien avec l'élève, ça permet certainement de transmettre des informations, des fichiers, des textes, des cours, mais il y a des obstacles techniques et sociaux, c'est-à-dire la capacité à interagir avec un grand nombre d'élèves, parce qu'une classe aujourd'hui, c'est quand même 30 à 35 élèves, c'est pas juste une personne. Et puis, il y a la question du travail qu'on est en mesure de faire, du travail pédagogique qu'on est en mesure de faire avec l'élève. Et pour ça, il faut que tout soit prévu en termes d'exercice, mais aussi en termes de capacité technique.
Il faut nécessairement que les parents aient à la maison un ordinateur relié à Internet avec peut-être une puissance ou une configuration suffisante pour pouvoir supporter ce type de plateforme.
Dans ce cas, il faut nécessairement une connexion Internet. Après, on sait que dans certaines familles, la seule connexion Internet qui existe, c'est celle d'un des smartphones d'un membre de la famille. Donc là, va se poser quand même la question des multiples connexions. S'il y a, par exemple, plusieurs enfants qui sont concernés par la mesure de confinement et d'éloignement de l'établissement. Donc il y a aussi des questions en termes d'égalité d'accès à ce service-là qui pose. Et pour l'instant, alors on nous assure que tous les élèves devraient pouvoir y accéder. Maintenant, nous, on maintient notre question. Toutes les familles ne sont pas égales par rapport à l'accès à Internet et par rapport à l'utilisation d'Internet.
Merci Sophie Vénétité. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale adjointe du SNES-FSU, principal syndicat des enseignants du second degré, syndicat particulièrement actif dans la contestation contre la réforme des retraites. Et justement, c'est demain que le gouvernement affronte les deux motions de censure déposées par les oppositions à l'Assemblée nationale après le recours au 49-3, un procédé qui provoque le départ du groupe La République En Marche de 2 députés, celui du Rhône, Hubert-Julien Laferrière, et celle des Alpes de Haute-Provence, Delphine Bagarry. Et le débat aussi de Force ouvrière, le syndicat quitte la conférence de financement après avoir reçu la lettre envoyée par le Premier ministre aux partenaires sociaux samedi soir après son annonce à la tribune du Palais Bourbon. Yves Verrier, le secrétaire général du syndicat, critique la méthode du gouvernement. Le temps pour demain matin. Pluvieux de la Normandie aux Pyrénées jusqu'à l'Aveyron. Ensoleillé dans le sud-est, sauf en Corse où le sud de l'île est en vigilance pluie inondation. Temps couvert de la Bourgogne-Franche-Comté aux Ardennes et à la Moselle. Hésitant entre nuages et éclaircies partout ailleurs. Attention dans les Hautes-Alpes en alerte orange en raison d'un très fort risque d'avalanche sur les massifs. Les températures 2 à 7 degrés de la Bretagne aux Pyrénées près de la Méditerranée. 7 à 10 en Corse. 0 à 4 degrés sur le reste du pays.